Vous aimez ce podcast et vous souhaitez me soutenir en me laissant un petit pourboire ou un généreux encouragement? Rendez-vous sur Tipeee, le site qui récolte les tips. Dans votre barre d'adresse, après https://, tapez fr.tipeee.com/lesdestinsflottants avec un tiré du 6 entre chaque mot. Merci. Bonjour et bienvenue dans Les Destins Flottants, le podcast au sujet des croyances limitantes remises en question par chacune des personnalités inspirantes interrogées. Étant donné que nos croyances sont le fruit de notre inconscient collectif et individuel, nous avons le pouvoir de les conscientiser afin de les transformer et donc de trouver notre voie. Les transformer ou les diluer, comme le dit si bien Camille Griselin, fondatrice de l'hypnose sagesse. L'objectif n'est pas de les supprimer, mais de faire en sorte qu'elles prennent moins de place en ajoutant d'autres croyances. Nous sommes un tout, et les croyances ne sont limitantes que si elles prennent trop de place dans notre esprit. Nous questionnons également les croyances externes, soit les perceptions que nous avons du monde et des choses. C'est en ce sens que le podcast s'appelle « Destin flottant », puisque notre destin flotte, changeant en permanence en fonction de nos perceptions. Je suis Anaïs et depuis mes 15 ans, je m'intéresse au comportement humain à travers la philosophie, la psychologie et la psychanalyse. Je travaille aujourd'hui pour des projets humanitaires et environnementaux à l'étranger, ce qui ne cesse de bousculer mes propres croyances héritées de mon éducation occidentale. Notez le podcast sur votre plateforme préférée et partagez-le autour de vous afin de favoriser sa diffusion et de donner encore plus d'inspiration. N'hésitez pas à me transmettre vos avis, vos remarques ou vos questionnements sur les réseaux sociaux, je vous répondrai avec grande joie. Merci et bonne écoute. Aujourd'hui, mon invité est un journaliste, ancien reporter de guerre, réalisateur, écrivain et cofondateur de l'INRES, l'Institut des expériences humaines extraordinaires telles que les morts imminentes. Il s'agit bien sûr de Stéphane Alix. Stéphane, comment allez-vous ?
Bonjour, ça va très bien. Merci de m'accueillir dans ce podcast.
Donc ça fait un moment que je souhaite vous recevoir hein, sur le podcast, Stéphane. Donc c'est avec grande joie que je vous pose cette première question. Donc lors de votre jeunesse, notamment lorsque vous avez effectué vos premiers pas en tant que reporter de guerre, quelle était votre conception du monde et de vous-même ?
Oh, j'avais pas du tout de conception particulière. J'étais très naïf, très jeune, très inexpérimenté. Donc j'avais juste envie et une espèce d'urgence à vouloir réaliser mes rêves. Et mon début dans le journalisme, c'était parce que je voulais, pour un certain nombre de raisons qui se sont éclaircies bien plus tard, je voulais devenir reporter de guerre. Et je voulais avoir une expérience de terrain avant mes 20 ans. Voilà, c'était mon espèce de leitmotiv. Et ça m'a conduit en fait à partir en Afghanistan en 1988, j'avais 19 ans, pour rejoindre clandestinement un groupe de combattants. À l'époque, l'Afghanistan était occupé par l'Union soviétique et la résistance était extrêmement organisée et extrêmement impactante pour l'occupant. Et tous les partis de la résistance afghane avaient des bureaux de représentation au Pakistan voisin, un peu comme pendant la guerre en Europe, la Seconde Guerre mondiale. La résistance française avait des bureaux basés à Londres. Donc en fait, tous les journalistes, tous les humanitaires qui voulaient rejoindre la résistance, soit pour faire des reportages, soit pour apporter leur aide, étaient en relation avec ces bureaux sur la frontière pakistanaise. Et c'est là qu'on arrivait. Et moi, j'avais pris quelques conseils auprès de journalistes, un grand reporter de l'Express, un grand reporter du Point, à qui j'avais demandé « mais comment on fait ?» Et je suis parti avec un billet d'avion pour le Pakistan. J'ai rejoint cette ville frontalière qui s'appelle Peshawar, qui était, d'après les articles que j'avais lus, un espèce de repère d'espions, de combattants, enfin un truc pas possible. Et dans mon idée au départ, j'espérais pouvoir aller en Afghanistan avec des combattants, mais je pensais pas du tout pouvoir le faire facilement, ni même longtemps. Et je m'étais organisé en me disant « bon, bah, je vais faire des reportages dans les camps de réfugiés et un peu partout au Pakistan ». Et en fait, les choses se sont accélérées très rapidement quand je suis arrivé sur place. J'ai été mis en rapport avec un groupe de combattants chiites qui n'avaient jamais pris aucun journaliste avant. Quand j'ai débarqué chez eux avec ma gueule de poussin, ils m'ont cru. Ils ont cru que j'étais journaliste et ils m'ont dit « bon, bah, on vous embarque ». Et 3 jours après, je rentrais clandestinement dans le pays et je suis resté dans le maquis avec eux plus de 2 mois. Et ça a été une expérience totalement bouleversante, fondatrice même de mon approche journalistique. Mais j'avais aucune conception. Et d'ailleurs, la seule conception que j'avais, c'était peut-être la façon inconsciente dont j'avais été éduqué en France. C'est-à-dire que je m'étais jamais posé la question de l'altérité, si on peut dire. Et pour moi, le monde entier était plus ou moins à l'image de ce dans quoi j'avais été élevé en France. Et à ma grande surprise, dans les premières semaines avec les Moudjahidines, on était vraiment dans le maquis, donc dans des cabanes souterraines construites dans les montagnes. Il y avait personne qui parlait anglais, encore moins français. Donc j'ai commencé à apprendre un tout petit peu le farsi, parce que c'était des combattants qui adoptaient cette langue-là. Et ce qui m'a le plus estomaqué pendant ces premières semaines, c'est que j'ai expérimenté presque physiquement la dissolution en fait de mon espace culturel dans lequel j'avais été éduqué jusqu'à présent, et je pénétrais dans un autre espace, dans une autre réalité qui était celle de ces combattants musulmans chiites faisant la guerre sainte contre l'occupant soviétique. Et cette expérience, elle a été fondatrice parce que je me suis rendu compte dans mon corps, dans mes cellules et aussi dans mon mental, que le monde était constitué de plein de peuples, de pensées, de cultures, de religions différentes. Et non, on pense pas le monde tous de la même manière. Non, on n'a pas tous les mêmes valeurs, on n'a pas tous les mêmes référents sociaux, politiques, etc. Et d'être plongé ainsi dans une autre réalité, celle de ces combattants, m'a marqué au fer rouge à jamais, parce que je suis revenu de ce voyage en ayant compris que, en tant que journaliste, mais en tant qu'être humain, il ne s'agit pas d'essayer de normaliser pour que tout le monde pense pareil et tout le monde voit les mêmes choses et tout le monde ait les mêmes valeurs, mais au contraire d'essayer d'écouter les valeurs et les visions du monde qui sont différentes. Et c'est dans ce sens que la richesse de cette planète se fait, en fait.
Oui, c'est un point très important, ça, l'ouverture d'esprit, en fait, écouter plus que projeter. Et je pense qu'on a un naturel à vouloir projeter sur l'autre, hein, nos propres valeurs et nos propres conceptions. Et quand on se confronte à des cultures aussi différentes et aussi lointaines de l'Occident, hein, puisqu'on parle de la France, c'est sûr que ça nous met tout de suite dans une dynamique beaucoup plus humble, je pense, du monde.
Mais ce qui est important à souligner, c'est que c'est pas une affaire de volonté. Parce que on peut faire l'effort de se dire je vais partir en voyage et je vais essayer d'entendre la réalité des gens chez qui je vais. Mais au-delà de la volonté, je pense qu'on a aussi un appareil psychique et cognitif qui nous enferme en même temps qu'il nous protège dans une vision du monde. Ça, on le voit bien en neurosciences, la façon dont le cerveau se développe dès les premiers instants de la vie, il se développe pour constituer une carapace cognitive. Et tout ce qui va mettre en danger cette carapace qui va progressivement développer une vision de la réalité, tout ce qui va mettre en danger cette vision de la réalité va être rejeté et combattu, ou va tout le moins nous mettre mal à l'aise. Donc même avec la meilleure volonté du monde, on peut être cognitivement dans une difficulté à accepter un peuple très différent, une culture très différente. Ou alors on va accepter une partie de ce qui nous semble un peu correspondre à nos propres valeurs, mais il y a une autre partie qu'on va pas pouvoir entendre. Et donc ça demande non seulement effectivement un acte de volonté, mais ça demande aussi d'avoir conscience de ces mécanismes, d'avoir conscience que la vérité n'existe pas d'une façon sacralisée quelque part et quelqu'un en serait le détenteur. Il n'y a pas une vérité, il y a plein de vérités qui se partagent, et on le voit aujourd'hui avec ce qui se passe en Ukraine. À chaque fois que je vois un conflit comme ça démarrer, je repense à cette phrase qu'on attribue à Kipling, qui disait que la première victime d'une guerre, c'est la vérité. Et on le voit vraiment dans le conflit actuel, comme on le voit dans tous les conflits précédents. On n'est plus en capacité d'entendre avec subtilité ce qui se passe sur un terrain de guerre. On prend parti pour un côté et systématiquement l'autre côté devient le diable absolu. On peut plus entendre la moindre logique, on peut plus entendre le moindre argument. Alors dans le cas présent, il y a clairement un agresseur et clairement un agressé. Je discute pas ce point-là, mais pourquoi l'agresseur agresse? Est-ce qu'il agresse parce qu'il est fou, comme on n'arrête pas de le dire dans les médias, ou est-ce qu'il y a des raisons peut-être un petit peu plus structurées, un peu plus qui, si on les entendait, nous permettrait de mieux comprendre pourquoi il y a un affrontement aujourd'hui. Et ça, moi, en tant que journaliste, pour avoir travaillé après sur des conflits pendant une grosse dizaine d'années, j'ai toujours été frappé par ça, de voir, quand je suis dans un camp, comment inconsciemment et consciemment, on diabolise complètement l'autre camp. Et ce qui était très curieux, il m'est arrivé une fois une scène en Afghanistan qui m'avait vraiment marqué, parce qu'à 3 semaines d'intervalle, je suis allé sur les lignes de front, mais d'un côté et de l'autre. C'est-à-dire que pendant un premier reportage, j'étais à Kaboul avec les talibans, et ils avaient des lignes de combat. La ligne de front était au nord de Kaboul, donc je suis allé sur les lignes de front, je discutais avec les combattants qui étaient en train de tirer sur les forces de Massoud. Et puis quelques semaines après, je me suis trouvé côté Massoud, sur les lignes de front qui faisaient face aux talibans. Et des deux côtés, j'étais avec des Afghans musulmans partageant la même religion, les mêmes valeurs, mais qui me parlaient de la personne en face comme étant un mauvais musulman, comme étant un ennemi, comme étant un diable. Et ce qui m'avait frappé, c'est que je me suis dit, mais ces gars-là se ressemblent, en fait. Ces gars-là ont les mêmes valeurs, ont les mêmes... Et ils ont complètement effacé l'humanité de la personne qui est en face d'eux pour être en mesure de pouvoir la tuer, parce que c'est difficile de tuer quelqu'un qui nous ressemble. En revanche, quelqu'un qui ne nous ressemble pas, c'est beaucoup plus facile.
C'est une manière de se protéger, oui.
Donc, vous voyez, d'une certaine manière, cette espèce d'empreinte que j'ai au fond de moi, qui m'a été posée pendant ce voyage-là, au printemps et à l'été 88, a été pour moi déterminante. Le monde est fait de plein de choses différentes et de plein de vérités différentes. Et ça m'a peut-être donné cette capacité plus grande d'empathie et d'écoute de tout ce que je m'attends pas à entendre, en fait. Que ça soit de la part d'un trafiquant de drogue au fin fond de l'Afghanistan ou un terroriste en Asie centrale ou un expérienceur de mort imminente. Voilà, toutes ces choses qui sortent de l'ordinaire, qui sortent de nos valeurs, qui sortent de notre conception de la réalité, elles sont pas fausses, elles sont une autre vérité. Et c'est en tant que journaliste, mais je crois qu'aussi au-delà du journalisme que je suis, en tant qu'être humain, il est absolument crucial d'entendre les autres vérités de cette planète, parce que c'est que comme ça qu'on avancera.
Bien sûr, et puis c'est reconnaître l'autre et écouter ce qu'il a à dire, c'est aussi s'écouter soi, quelque part. Hein. C'est faire preuve de bienveillance envers l'autre, c'est faire preuve de bienveillance envers soi. Et souvent, comme on se croit séparé de l'autre, on a du mal à l'intégrer, ce concept, alors qu'en fait, la clé est là.
C'est justement et peut-être que la difficulté, c'est justement de parler de bienveillance, parce que... comprendre pourquoi quelqu'un veut nous tuer, ça nécessite pas forcément d'avoir de la bienveillance. Là, il s'agit pas d'avoir de la bienveillance envers la décision de Poutine pour envahir l'Ukraine. Il s'agit de comprendre quel est son monde, oui, et quelle est sa réalité. Donc, ça demande de l'écoute, mais pas forcément de la bienveillance, parce que la bienveillance peut nous faire croire qu'il faudrait du coup ne pas voir les exactions qui peuvent être commises, et ça, c'est pas ça qui est demandé. Ça ne nous empêche pas, oui, de juger, ça ne nous empêche pas de nous positionner avec fermeté face à quelque chose que l'on juge inadmissible et contre nos valeurs. Mais l'écoute nous permet de comprendre un phénomène plus en profondeur. Et aujourd'hui, en tant que journaliste, moi je vois, alors est-ce que c'est peut-être le développement exponentiel des médias télévisuels, de l'instantanéité de l'information qui rendent la plongée dans la subtilité beaucoup plus difficile, mais je pense qu'on s'éloigne d'une capacité de vivre ensemble correctement en étant dans l'invective et en étant dans le jugement permanent des affaires politiques, des affaires internationales. Dès que quelqu'un fait pas quelque chose comme on dit, c'est un manipulateur, un tyran, un antidémocrate ou je ne sais quoi. Voilà, on est confronté sur cette planète aujourd'hui à plein de crises et sociales et environnementales, et je pense que c'est pas dans l'invective ou dans la violence ou dans le renfermement sur ses propres valeurs que l'on va comprendre quelque chose. Au contraire, on va pas trouver de solution forcément dans cette voie-là.
Oui, et le jugement nous empêche de voir.
Exactement.
Vraiment. Donc, bien sûr, on s'enferme sur notre position. Alors justement, à la suite de vos expériences sur des terrains de guerre, est-ce que vous pouvez en venir à la conclusion que tout peut se régler de manière pacifique, ou existe-t-il certains êtres ou certains conflits envers lesquels la riposte avec violence est inévitable?
C'est difficile de répondre de façon globale à cette question, parce que chaque terrain va avoir une réalité différente. Euh, Vous savez, après mon premier voyage en Afghanistan en 88, j'ai voulu continuer à apprendre sur le terrain, donc à partir en voyage et à travailler sur des thématiques de façon approfondie. Donc je me suis beaucoup intéressé notamment à la question tibétaine. Je suis allé en Inde, au Népal, au Tibet. J'ai travaillé sur l'invasion chinoise du Tibet, la communauté en exil en Inde, et notamment sur un aspect qui est assez méconnu de cette histoire-là, c'est la guérilla qui a été mis en œuvre par un certain nombre de combattants tibétains face à l'invasion chinoise, et qui a été même à un moment soutenu par la CIA avec des combattants tibétains qui ont été entraînés au Colorado à des techniques de guérilla, qui ont été reparachutés au Tibet. J'avais fait un grand article dans Actuel, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce magazine.
Oui.
Je me souviens, c'était un très très grand article d'investigation sur cette question-là. Et à l'époque, moi, je revenais d'Afghanistan, donc j'étais vraiment dans ce modèle, quand on est envahi, il faut se battre, comme les Français l'ont fait quand ils ont été envahis par l'Allemagne nazie, et comme les Afghans l'ont fait quand ils ont été envahis par l'Union soviétique. Donc les Tibétains, il y a l'aspect monastique, bouddhiste et les enseignements du bouddhisme incarnés par le Dalai Lama et d'autres grands maîtres qui sont extrêmement impressionnants et top. Mais il y a aussi, sur le sol du Tibet, des gars sérieusement costauds qui en ont fait voir de toutes les couleurs aux Chinois et qui ont animé une résistance qui a été à certains moments efficace. Et donc, je me souviens d'une interview que j'ai faite avec le Dalai Lama en 89, je l'ai revu plusieurs fois entre 89, 90, 91, j'ai fait beaucoup d'interviews avec lui, j'étais obsédé par le désir d'obtenir une réponse à la question « Mais pourquoi est-ce que vous avez empêché des Tibétains de se battre ?» Parce qu'à un moment de l'histoire, dans les années 70, au début des années 70, le Dalai Lama a demandé officiellement à tous les mouvements de guérilla qui étaient encore actifs au Tibet d'arrêter de se battre. Et moi, jeune prétentieux journaliste gamin, je lui disais, mais que vous soyez bouddhiste non violent, c'est très bien pour vous, c'est cool, mais à quel titre vous prenez la responsabilité d'empêcher certains de vos concitoyens de se battre pour l'avenir de leur pays, quoi? Et il me répondait, bah, parce que moi, je crois que la violence ne mène à rien et que la non-violence est forcément l'unique voie de résolution de conflits. Bon, on est vraiment en droit de se poser la question parce que, où en est le Tibet aujourd'hui? C'est pas à moi forcément de répondre à cette question. Maintenant, pour répondre à votre question, il me vient à l'esprit une autre phrase d'Itzhak Rabin qui a conclu les accords de paix avec Yasser Arafat dans le conflit israélo-palestinien. Et il a eu beaucoup d'opposition de par son rapprochement des mouvements palestiniens. Et je me souviens d'une interview où il avait répondu, vous savez, on fait pas la paix avec ses amis, on fait la paix avec ses ennemis. Et cette phrase, elle est vraiment importante pour moi. Quels que soient les conflits, il y a toujours un moment où il va falloir parler. Il y a toujours un moment où, de toute façon, les forces en présence vont être soit épuisées sur des positions, soit le carnage va être tel qu'il va falloir parler. Et on parle avec ses ennemis. On ne parle pas avec ses amis avec qui on a déjà fait la paix. Donc, sur cette planète, il y a 1000 types de conflits différents. Ils ont tous parfois des origines très différentes. Parfois c'est territorial, parfois c'est économique, parfois c'est idéologique. Il est clair que les conflits ne règlent rien, mais ils font partie prenante de la réalité de l'être humain. Vous voyez, on voit les conflits en Ukraine aujourd'hui. Auparavant, c'était en Bosnie, en Palestine. Mais à l'intérieur de vous, de moi, est-ce qu'il n'y a pas des conflits entre différents espaces de notre personnalité? Est-ce qu'il n'y a pas des conflits dans notre entourage familial, amical, à certains moments? C'est juste un niveau d'intensité. Il y a des conflits qui se règlent à coups de bombes et d'obus, mais nous, comment est-ce qu'on règle les conflits auxquels on est confronté dans notre vie quotidienne? C'est pas parce qu'on tue personne que la violence, le non-contrôle de ce monde énergétique est différent d'un conflit armé. Donc, à certains moments, je pense qu'il faut avoir une position où on accepte le conflit, on accepte l'affrontement, parce qu'il faut manifester une force, il faut manifester quelque chose qui soit de l'ordre de l'ancrage, comme l'Europe est en train de le faire. Excusez-moi, je parle beaucoup du conflit ukrainien, mais il est quand même au cœur de l'actualité en ce moment. Comme l'Europe est en train de le faire aujourd'hui, en opposant à la Russie, enfin à la politique de Poutine, une rigueur qu'elle n'a jamais montrée ces 25 dernières années. si, par exemple, ça, les historiens en débattent encore aujourd'hui, si l'Europe avait manifesté beaucoup plus de fermeté quand l'Allemagne nazie a envahi la Pologne en septembre 39, est-ce que ça aurait été aussi facile pour Hitler de continuer à faire son expansion? Et on le sait pas. Mais voilà, c'est... Je terminerai cette question par la question d'Dalai Lama que j'ai tanné. Et à un moment, comme il me répondait toujours pas vraiment, enfin, de façon satisfaisante telle que je l'attendais, je lui dis, mais écoutez, prenons un exemple. Imaginez qu'il y a un moustique qui vous pique. Qu'est-ce que vous faites? Et là, il me dit, bah, écoutez, ça dépend des fois. Parfois, je vais souffler sur le moustique pour qu'il s'envole. Parfois, je vais le chasser un peu avec ma main. Et puis, des fois, je l'écrase. Voilà. Donc, voilà, même le Dalai Lama tue des moustiques de temps en temps. Donc,
quelle violence.
Non, mais voilà, je pense que encore une fois, revenons à notre vie quotidienne. Parfois, on va être confronté à de la violence de la part de quelqu'un. On va sentir instinctivement qu'il faut à ce moment-là montrer beaucoup de fermeté pour ne pas se faire envahir et se faire vampiriser. À d'autres moments, on sent que l'intelligence va plutôt être dans la baisse de nos exigences pour laisser couler cette colère et ne pas en rajouter. Voilà, ça dépend vraiment des moments, des circonstances. Mais je suis pas attaché de façon exhaustive à une position non-violente ou violence. Ça dépend vraiment des circonstances.
D'accord. Et alors, selon de nombreux courants thérapeutiques, parce que faut quand même en arriver à l'acte physique, hein, le fait de tuer quelqu'un, ça va quand même assez loin, je pense. Il y a de nombreux courants thérapeutiques qui associent ça à la pulsion de mort. Et alors, à la suite de vos expériences, est-ce que vous arrivez à comprendre comment on se retrouve dans l'engrenage de la violence et de la mort, et qu'on en arrive à concrétiser, en fait, cette pulsion de mort?
Ben, je pense que c'est un glissement progressif. C'est un glissement très progressif et qui est en fait beaucoup plus facile qu'on l'imagine. Je pense que c'est ça qui est assez terrifiant. Nous, vous, moi, on vit aujourd'hui dans une bulle de paix depuis 75 ans. On n'a jamais été confrontés à la guerre. Moi, mes parents l'ont été, mais ils étaient très très jeunes, très enfants à ce moment-là. Donc pour nous, c'est irréel, ça. Et effectivement, vous, moi, et une bonne partie, je pense, des personnes qui nous écoutent, s'imaginent pas une seule seconde être peut-être capable de prendre un fusil et de viser quelqu'un et d'appuyer sur la détente. Mais c'est parce qu'on est préservé, parce qu'on vit dans une petite bulle, parce qu'on vit dans une Europe de paix depuis, dans une partie de l'Europe qui est en paix depuis près de 80 ans, et qu'on n'a jamais eu à se poser la question. Mais de penser qu'on n'en est pas capable, ou de penser qu'on serait capable de ne pas le faire parce qu'on a des grands idéaux non violents, je pense que ça dénote d'une part d'illusion de qui l'on est vraiment. Et on le voit, à chaque guerre se révèlent des comportements qui sont inimaginables. Voilà, pour avoir beaucoup travaillé sur l'Allemagne nazie et la montée du nazisme, je pense que, et ça, tous les sociologues, tous les historiens le disent, l'immense majorité des forces nazies, des forces SS, même de ceux qui travaillaient dans les camps de concentration et d'extermination, n'étaient pas des psychopathes. Il y en avait évidemment, parce que chaque situation de crise révèle aussi certains caractères totalement psychopathes. Mais l'immense majorité des gens qui étaient acteurs de l'Allemagne nazie étaient des gens comme vous et moi. Des gens comme vous et moi, et penser que nous, on l'est pas et qu'on aurait des valeurs plus solides, c'est vraiment s'illusionner sur qui on est, parce qu'on n'a pas été confronté à ça. Il suffit de voir les discours et l'agitation sociale à chaque élection, comme ça va être le cas en France dans les semaines qui viennent, pour voir que parfois des discours sont fous. Imaginez que ces discours puissent être traduits en actes. Mais jusqu'où ça va? Jusqu'où ça peut aller? Nous, faut avoir vraiment conscience que nous, en Europe occidentale et en France, on est dans une démocratie. Tout le monde la critique, mais moi, je loue le Seigneur s'il existe qu'on vive dans cette démocratie, parce que elle nous préserve quand même de beaucoup beaucoup de choses. Mais il faut avoir conscience que, en vivant dans cet espace-là, on n'est pas confronté à des questions terribles auxquelles une grande partie de l'humanité doit se confronter quotidiennement. Donc, il faut être très modeste, à mon avis, dans sa façon de juger de ce que les autres font, parce que beaucoup d'entre nous sont sans doute capables de choses qu'ils s'imaginent même pas.
Oui, et puis j'écoutais une interview très récemment qui disait que bah, finalement, la guerre, c'est un peu l'archétype de l'ego en action, de l'ego insatisfait en action, là où je pense que d'autres forces entrent en jeu, au-delà de l'ego.
Ouais, je suis toujours un petit peu réticent à développer des grandes réflexions un peu de cet ordre-là sur la guerre, parce que la guerre, c'est vraiment comment dirais-je, l'aboutissement d'une situation qui ne trouve pas d'autre solution pour se résoudre. Donc j'ai un profond respect, une profonde admiration pour tous ces Ukrainiens, encore une fois, qui aujourd'hui prennent les armes. Ils se posent pas la question de savoir si c'est une manifestation de l'ego ou pas. À un moment, il faut prendre un choix, quitte à ce que sa vie soit dans la balance, parce qu'on lutte pour des idées, on lutte pour des valeurs, on lutte pour une idée de collectif de l'humanité que l'on a envie de défendre en opposition à une autre qui n'est pas juste, quoi, qui n'est pas ce qui nous semble correct. Donc, qu'est-ce que c'est que l'ego, en fait? L'ego, c'est un formidable outil de survie sur cette planète. C'est un formidable outil dans le sens où ça nous permet de nous constituer une personnalité fonctionnelle qui fait de nous des gens qui peuvent interagir les uns avec les autres, qui se mettent pas en danger en interagissant, qui sont plus ou moins solides pour mener une vie et une existence. Et cet ego, il a aussi un certain nombre de paramètres qui sont des petits défauts, des bugs du système, qui sont qu'effectivement parfois... comme cette structure psychique, elle est faite pour nous faire vivre et supporter les aïlas et les inconnus de l'environnement et de la réalité, parfois on est peut-être un peu plus bourru et enfermé dans notre envie de ne pas nous confronter à autre chose. Parfois cet ego, il a été constitué, enfin pas parfois, mais la quasi-totalité du temps, il a été aussi constitué de par ce qui nous a impacté depuis notre naissance, les injonctions inconscientes, les réflexions, l'espace culturel et social et psychique dans lequel on est. Donc c'est jamais parfait, un ego. C'est une carapace, en fait. C'est une carapace fonctionnelle. C'est un exosquelette intérieur, si je peux utiliser cette image bizarre. Et effectivement, il a des grandes qualités dans ce qui nous aide à vivre, mais il a pas des grands défauts, mais son existence amène un certain nombre de conséquences qui font que parfois, c'est lui qui prend les commandes et notre conscience, notre âme intérieure, elle perd l'accès à nous-mêmes. Et c'est ce qui se passe sur l'immense majorité des êtres humains.
Donc vous pensez que l'ego, fondamentalement, nous éloigne de la connaissance de notre âme dont on parlait tout à l'heure hors antenne?
Il nous en éloigne, mais il nous permet aussi de vivre cette vie. Et je pense que cette vie incarnée que nous vivons, elle sert aussi notre âme. Parce que ce choix de vie, pour moi, il est complètement une sorte d'émanation de désir que notre âme a eu à un moment de s'immerger dans cette matière, dans cette réalité, dans ce temps, sur cette planète, pour expérimenter un certain nombre de choses. Donc notre ego, c'est notre machine pour voyager sur Terre dans cette vie. Donc il nous enferme, mais en même temps il nous permet de voyager. C'est un peu comme si vous voulez partir loin en voyage et faire un tour du monde, vous allez prendre une voiture, vous allez prendre un bateau. Alors bien sûr, la voiture, il y a des vitres qui vous séparent du monde extérieur, vous pouvez pas respirer l'air, vous pouvez pas marcher à votre rythme, mais en même temps, c'est ce qui vous permet d'avancer loin. Donc il faut juste être conscient, en fait, des paramètres, et je pense que c'est un des sens de la vie que j'ai découvert et auquel je suis le plus attentif, c'est que tout ce qui nous permet de vivre a des avantages et des inconvénients. Et plus on connaît les avantages et les inconvénients, plus on peut acquérir de liberté et de discernement dans notre vie. Savoir ce que c'est que l'ego en psychologie, savoir la force que ça peut représenter, nous aide parfois à pouvoir découvrir des techniques, par exemple comme la méditation, qui permettent de le mettre à distance un certain temps, de le calmer, pour nous permettre justement de laisser respirer un peu notre âme qui, d'ordinaire, est complètement inhibé par les mécanismes cognitifs de notre ego. Mais ça veut pas dire que l'ego est pas bien. Il y a souvent cette erreur, justement, en Occident, de considérer que l'ego serait un truc vraiment pas bien dont il faut se débarrasser. Ben non. Quand tout d'un coup des gens, au prétexte de s'engager dans un parcours spirituel se disent l'ego, je m'en fous, le moi, ça n'existe pas. Bah, en fait, ils font un chemin spirituel, mais ils oublient juste qu'ils sont constitués de plein de blessures, et ils se disent bon, bah, le chemin spirituel va suffire à les régler. Sauf qu'au bout de 20 ans, bah, ça craque. Et puis quelqu'un qui vient de faire 20 ans de méditation ou de retraite va devenir un prédateur sexuel parce qu'il n'aura jamais réglé le problème au fond qui n'a jamais été réglé par son cheminement spirituel.
Oui, ça arrive.
Et à l'inverse, je pense que l'introspection et le que permet la psychanalyse ou la psychothérapie est un outil qui peut être aussi formidable pour mettre en lumière ces mécanismes intérieurs et qui parfois peut être mal jugé par certaines traditions spirituelles parce qu'elles disent ça ne fera qu'entretenir votre névrose et votre ego.
C'est ça, oui.
L'équilibre, il est entre les deux, en fait. On est fait d'une âme, mais on est aussi fait d'un support, d'une certaine manière, qui va traverser cette vie. Et ce support, il a des défauts, il faut en tenir compte. Donc, chemin spirituel plus psychothérapie, c'est le parfait équilibre.
Non, je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites. Et pour revenir aux avantages et aux inconvénients de l'ego, ça me rappelle ce que disait justement une chamane que j'ai interviewée très récemment, qui me disait d'apprendre toujours en fait à faire danser et à harmoniser l'ombre et la lumière de notre monde, hein, qui vivent ensemble, parce que notre monde est duel, hein, voilà, on vit, on meurt, le jour, la nuit, tout est duel, hein, on ne peut pas lutter contre ça. Et elle disait qu'elle fut un temps, en fait, elle s'accrochait beaucoup à la lumière, elle ne voulait pas voir l'ombre, elle ne comprenait pas l'ombre. Et puis finalement, elle me dit, mais quand je m'éloigne trop de l'ombre, l'ombre me montre sa part de lumière, enfin la lumière cachée. Et quand je m'accroche trop à la lumière, tout de suite, la lumière me montre sa part d'ombre. Mmh. Et je pense que ça, c'est une très belle conception où c'est apprendre vraiment à harmoniser ces deux parties en conscientisant nos peurs par rapport à elles.
Mmh. Mais c'est une très belle phrase, c'est vraiment important. Regardez ce qui s'est passé récemment dans l'histoire. On est continuellement confronté à tout d'un coup des histoires incroyables qui sortent dans des chemins spirituels ou dans des communautés spirituelles. Regardez ce qui s'est passé avec Osho, un type qui a un enseignement spirituel extraordinaire, mais qui roule et qui a je ne sais pas combien de Rolls-Royce, et qui agrège autour de lui des milliers de followers, enfin pas de followers, mais de disciples aux États-Unis qui se comportent d'une façon hallucinante, on est pire que dans une secte. Regardez João de Deus au Brésil, qui est un guérisseur spirit extraordinaire, dont je connais des médecins qui ont constaté les miracles et les guérisons qu'il fait. Et ben ce type-là, il détourne des milliers de dollars, il viole je ne sais combien de ses patientes. Regardez Seugal Rinpoche, qui a traduit et interprété magnifiquement le livre des morts tibétains et qui était un maître réincarné tibétain. Pareil, c'est le Harvey Weinstein du bouddhisme. Enfin, je veux dire, c'est, pour moi, c'est bien l'illustration que le chemin spirituel qui ferait l'impasse sur les blessures psychologiques intérieures prend le risque de voir ces blessures rejaillir comme elles rejaillissent chez tous les profanes.
Et de faire grandir ces frustrations.
Bah exactement, exactement. C'est le problème qui se pose avec les prêtres en France et dans l'Église catholique. Voilà des milliers d'hommes à qui on dit, bah, comme vous êtes prêtre et que vous dédiez votre vie à Dieu, bah, théoriquement, vous n'avez plus de besoin, plus de désir. Bah, si. Et il y en a un paquet qui ont des désirs. Et
ça se finit mal.
Et il y a des milliers de victimes. Voilà.
Exactement.
On est constitué d'une part spirituelle, mais on est des êtres humains. Êtres humains avec nos blessures, nos défauts, notre psychologie. Tout ça pourrait devenir des forces pour autant qu'on les entende et qu'on les écoute et qu'on les explore. Si on les met sous le tapis, elles agissent et elles nous empoisonnent, exactement comme un virus qu'on ne voit pas, qui nous empoisonne quand même. Quelle que soit notre personnalité, regardez Mère Teresa qui a fait des confidences sur les désirs qu'elle avait pu éprouver, ses hésitations à se marier à un moment, enfin, je ne crois pas dire de bêtises là-dessus, mais je me rappelle aussi Gandhi qui a lutté toute sa vie contre ses pulsions sexuelles. Est-ce qu'il y a lutté même avec efficacité? Je ne suis même pas sûr. Comment des gens d'une telle exemplarité spirituelle peuvent montrer des failles psychologiques aussi béantes? Mais c'est presque naïf de s'en étonner. c'est presque naïf de s'en étonner.
Je pense que c'est quand on veut peut-être approcher de trop près le sacré et qu'on, au détriment de ce qu'on vit ici sur Terre, dans cette vie-là, qui a un sens malgré tout, même si elle est imparfaite.
Mais c'est ça, c'est s'illusionner en pensant que le spirituel va régler tous les problèmes de l'existence. Non, le spirituel, c'est notre reconnexion à une dimension éternelle, c'est une reconnexion à notre âme, mais ça ne veut pas dire que ça nous exonère de nos blessures, de nos failles, de nos souffrances. Et ces souffrances, ces blessures, ces failles, elles ont eu des conséquences sur notre développement psychique qui agira tant qu'on s'en occupe pas, en fait.
Bien sûr. Alors justement, le monde spirituel, le monde de l'invisible, quels sont vos premiers pas dans ce monde-là ? Est-ce que ça a commencé quand vous avez fait cette retraite au Pérou ou c'était avant ?
À quel moment ? Ça a commencé bien avant, en fait. Quand j'étais adolescent, j'ai lu pas mal de choses dans le domaine ésotérique. Je m'intéressais à Hélène Blavatsky, je lisais des auteurs romantico-mystiques. J'avais comme l'intuition qu'il y avait quelque chose de fascinant et d'intéressant là-dedans, mais j'étais extrêmement dans l'ignorance totale de ce dont il pouvait s'agir. Je me nourrissais d'auteurs comme même Lautré Hamon, qui était un de mes auteurs cultes quand j'avais 16-17 ans. Et puis, cette espèce d'aspiration spirituelle a été totalement écrasée par mon voyage en Afghanistan en 88. Là, tout d'un coup, je me suis trouvé confronté au combat, à des gens qui se tuaient, et j'étais dans un terrain de guerre. Donc, quand je suis revenu de là, je me suis dit, tous ces trucs spirituels, c'est des conneries. C'est peut-être intéressant pour certaines personnes, mais enfin, la réalité de ce monde, c'est quand même des gens qui se battent. Point. J'étais vraiment dans ce radicalisme un peu jeune, un peu bourrin. Et même, comme je vous le disais en début d'entretien, quand j'ai interviewé le Dalai Lama, j'étais pas du tout impressionné par sa stature spirituelle. Je connaissais rien au bouddhisme. Je m'y intéressais pas spécialement. J'étais impressionné par le personnage, parce qu'il est, c'est un personnage impressionnant. Et puis c'était la première personne célèbre que j'interviewais. J'ai fait sa première interview à 20 ans, en novembre 89.
Oui, ça peut être impressionnant, effectivement.
Oui, mais j'étais impressionné parce que c'est la première personne célèbre que j'interviewais. J'aurais interviewé Mick Jagger, ça aurait été pareil. Et toute la dimension bouddhiste, non-violence, enseignement, ça me passait à 4000. Les vrais bonhommes, c'était ceux que je venais de quitter en Afghanistan, qui se posaient pas 1000 questions et qui allaient tuer des Russes pour se défendre leur liberté. Et j'ai vécu un peu comme ça pendant une dizaine d'années de reportages de guerre et de reportages sur d'autres terrains. C'est-à-dire que le spirituel était vraiment très en arrière-plan de ma vie. J'ai vécu des expériences parfois un peu étonnantes, un peu curieuses, mais je me posais pas forcément la question. Dans certains pays, il m'est arrivé d'avoir ce qu'on appelle des expériences psychospirituelles où c'est arrivé dans un temple près de Lhasa au Tibet ou dans une petite pièce sans comprendre rien du tout, alors que j'étais pas du tout dépressif, je me suis mis à exploser en sanglots, touché par quelque chose dans cette pièce que je n'expliquais absolument pas. Une autre fois, dans l'extrême nord du Pakistan, sur les bords de l'Indus, qui est cette rivière qui dévale vers le sud, j'ai eu une vision, alors que j'étais, je fumais rien, j'avais rien bu, j'avais rien pris du tout. J'étais en expédition avec mes frères déjà, et pendant une halte, on s'est arrêté sur le bord de la route, c'est en très haute montagne, et la route longe des ravins vertigineux, enfin c'est un paysage dantesque. Et on s'est arrêté à un endroit où il y avait des pétroglyphes, qui sont des inscriptions dans les rochers qui dataient de l'époque bouddhiste. Et on faisait ces photos, on a fait quelques photos, et puis avant de reprendre la voiture, tout coup, je regarde le paysage, et j'ai l'impression tout à coup de voir en surimpression arriver une immense armée. Une armée faite de soldats, mais aussi de civils, avec des chameaux, comme si je voyais descendre ce que j'ai identifié après coup comme une expédition d'Alexandre le Grand qui comportait à la fois des soldats et puis tout un accompagnement civil. Je ne sais pas si c'est une vision réelle ou pas, mais elle m'a bouleversé et encore une fois, j'ai pleuré pendant des heures et des heures en essayant de me cacher de mes frères pour pas qu'ils ils voient ce qui était en train de m'arriver.
Ils n'avaient pas remarqué.
Non, ils n'avaient pas remarqué. Et puis, enfin, je pourrais la liste est longue. Une fois dans une mosquée à Mazar-e-Sharif, dans le nord de l'Afghanistan, qui est, selon les croyances locales, le tombeau d'Ali, qui est le prophète fondateur de l'islam chiite, qui était le gendre du prophète, qui a été assassiné en Irak. Et la légende afghane dit que son corps a été mis sur un chameau et qu'on a fait partir le chameau dans le désert et que le chameau a voyagé avec la dépouille de Ali et qu'à un moment, il s'est écroulé. Et là, à l'endroit où il s'est écroulé, on a construit une mosquée, on a enterré Ali. Et cet endroit, c'est Mazar-e-Sharif en Afghanistan. Bon, les puristes vous diront pas du tout, le tombeau de Ali est en Irak. Mais voilà, cette mosquée, elle a quand même une charge très très forte. Et moi, j'étais à Mazar-e-Sharif à ce moment-là, on était en plein conflit entre les talibans et l'opposition. Et j'étais vraiment tendu parce que je devais passer d'une ligne à l'autre. Et pendant un après-midi... j'avais un peu de temps libre, je me suis dit bah tiens, je vais aller à la mosquée. Et j'étais toujours habillé en afghan là-bas. Et puis j'ai un peu une tête de tadjik, donc personne remarque que je suis étranger. Et je rentre dans la mosquée. Et en fait, je rentre dans le sanctuaire dont je savais pas qu'il était interdit aux non-musulmans. Mais personne me dit rien vu que tout le monde croit que je suis afghan. Et en entrant dans le sanctuaire, en entrant là où est le mausolée d'Ali. À nouveau, j'ai une émotion bouleversante qui me fait éclater en sanglots. Je suis écrasé par la paix qui règne dans cet endroit-là. Donc voilà, j'ai eu tout au long de mes différents voyages des moments comme ça, psycho-spirituels très forts, que je ne m'expliquais pas, que je n'interprétais pas, si ce n'est de me sentir un amour profond et une attirance profonde pour toute cette zone de l'Asie centrale. Donc je me disais, bon, peut-être que je suis... Enfin, je me disais rien, en fait. Je vivais ces expériences-là en les savourant et en me sentant une proximité. Et voyez, l'Asie centrale, c'est vraiment un espace dans lequel j'ai voyagé pendant plus de 10 ans, qui est une terre extrêmement fabuleuse. Et vraiment, la bascule s'est faite à la mort de mon frère en avril 2001, tué dans un accident de voiture en Afghanistan avec 3 autres personnes. Et voilà, ce moment-là a été le moment où moi, j'avais 33 ans, où tout d'un coup, toutes ces questions que je me posais pas, je me les pose. Je ramasse le corps de mon frère, je dois l'évacuer sur le Pakistan, je dois le rapatrier en France, je m'occupe de le mettre en bière. Enfin, tout d'un coup, ma vie change évidemment et de façon radicale. Et dans les semaines et les mois qui suivent, je peux plus repartir dans cette forme d'insouciance dans laquelle je vivais avant et dans laquelle on vit tous, hein. Après tout, et puis quand on a 30 ans, moi je pensais à faire la fête, à faire mes reportages, à boire un bon coup, et puis c'est tout. Je m'épanouissais dans ce travail professionnel et dans tous les à côté de plaisir que j'avais. Sauf que là, tout d'un coup, je peux pas repartir là-dedans. Je peux pas. Enfin, ça a aucun sens. La vie s'arrête en un clin d'œil. Je veux comprendre. Donc ça s'est passé en 2001, en avril 2001, et en 2 ans de temps. J'ai changé radicalement de domaine professionnel, c'est-à-dire que j'ai laissé complètement tomber le reportage de guerre, le journalisme classique tel que je le faisais avant, et j'ai pas arrêté d'être journaliste, mais disons que j'ai utilisé toute ma connaissance et mon expérience d'enquêteur pour travailler sur cette question. En fait, il est passé où mon frère, quoi? Est-ce que si on fait une enquête rationnelle sur une question pareille, on peut avoir des réponses, ou est-ce que c'est uniquement un sujet exclusivement réservé au domaine religieux, auquel cas je ne me serais pas lancé là-dedans. Et en fait, c'est presque une succession de hasards et de rencontres qui ont fait que je me suis rendu compte que, en tant que journaliste, je pouvais faire exactement le même type d'enquête sur la conscience que ce que je faisais sur le trafic de drogue, sur l'émergence des talibans, c'est-à-dire aller interroger des experts, croiser des faits, essayer de poser des hypothèses, de les soumettre à l'expérimentation, etc., etc. On peut faire un travail de journalisme d'enquête rationnel sur les dimensions de la conscience, sur voilà, par exemple les expériences de mort imminente, que des rapports des millions de gens à travers le monde. Est-ce que c'est juste des délires, des hallucinations, des intoxications dues aux médicaments? Est-ce que c'est lié au processus physiologique de détérioration cérébrale? Il suffit d'aller enquêter et d'aller poser la question aux gens dont c'est le métier, des médecins, des réanimateurs, des neuroscientifiques, etc. Et quand j'ai fait ce métier-là, quand j'ai fait ce travail-là, à ma grande surprise, je me suis aperçu que je rencontrais pas un espèce de monde unanime qui avait la réponse, qui me disait, non, c'est juste dans la tête, quoi. Il y avait un certain nombre de gens qui me disaient, ouais, c'est juste dans la tête. Et puis quand je leur demandais, mais vous avez rencontré combien de témoins? Aucun, mais je le sais, on sait comment fonctionne le cerveau. Et là, j'avais envie de le dire, mais ça vous paraît pas un petit peu paradoxal de me répondre de façon aussi affirmative sans avoir jamais bossé sur le sujet? Et quand j'allais voir au contraire des neuroscientifiques, des cardiologues, des médecins qui avaient, eux, rencontré des témoins, qui avaient exploré un peu ces thématiques-là, je rencontrais beaucoup moins de certitudes. Je rencontrais au contraire des gens qui me disaient, on sait comment fonctionne le cerveau, on sait un certain nombre de choses, et là, manifestement, ces expériences-là challengent cette vision-là, parce qu'elles ne sont pas possibles dans le modèle que l'on a actuellement, et on ne peut pas conventionnellement les expliquer. Non, ce n'est pas dû à un manque d'oxygénation du cerveau, parce que dans ces cas-là, on sait très bien ce qui se passe. Non, ce n'est pas dû à tel type d'intoxication médicamenteuse, parce que les expériences arrivent à des gens qui sont dans des tableaux cliniques complètement différents les uns des autres. Non, ça n'arrive pas parce que... C'est un rêve ou une reconstruction imaginaire, parce que certaines personnes qui sont sorties de leur corps pendant cette expérience de mort imminente ont vu des choses dans des pièces ou dans des lieux éloignés qui ont pu être corroborées. Donc, et ça, c'est fascinant pour le journaliste que je suis, parce que tout d'un coup, je peux continuer à travailler très rationnellement sur un sujet qui, a priori, ne semblait pas l'être. Enfin, encore une fois, dans notre vision du monde occidental matérialiste, on se dit non, c'est à peu près tout là-dessus, tout ça, ce sont que des fadaises. Et quand on va creuser le sujet, non, ce ne sont pas des fadaises du tout. C'est peut-être au contraire la porte qui va nous permettre d'entrer dans la réalité de demain.
Et d'où vos reportages sur les médiums, sur les expériences de mort imminente notamment. Et aussi, il me semblait que vous aviez dit une fois que à l'analyse médicale, à l'IRM d'une personne en transe, c'est comme si le cerveau était en état de mort clinique, ce qui n'est pas possible.
Alors, ça va pas jusque-là, non. En revanche, dans certains états de transe, dans certains états méditatifs, ou notamment après injection de substances psychédéliques qui modifient considérablement le fonctionnement cérébral, il y a effectivement... Enfin, je connais surtout le sujet pour la question des psychédéliques, sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Et effectivement, ce qui est très, très curieux, c'est que les expériences psychédéliques induisent des extases d'une très très grande puissance, des moments d'extase d'une très très grande puissance. Les différentes études psychologiques qui ont été faites sur le sujet, en essayant de comparer notamment les extases spontanées vécues par des grands saints, des mystiques, et les extases induites par des psychédéliques, montrent que ces deux types d'extases en intensité sont similaires. Et donc, en neurosciences, on se dit, pour avoir une expérience d'une telle intensité, ça veut dire que ça doit être un feu d'artifice dans le cerveau. Donc les différents chercheurs en neurosciences se sont dit que ça serait intéressant de mettre des gens en état d'extase ou en état modifié de conscience de cet ordre-là sous IRM pour voir un peu ce qui se passe et ce qui s'allume dans le cerveau. Et les recherches sur les psychédéliques ont montré notamment que on peut induire ces états d'extase avec des doses importantes de psychédéliques, soit de la DMT qui est contenue dans l'ayahuasca ou les champignons hallucinogènes, ou du LSD ou d'autres substances. Et donc il y a un chercheur à Londres qui a dans le cadre de ses recherches a voulu essayer d'explorer en neurosciences ce qui se passait dans le cerveau au moment où on induisait ces états d'extase forte. Et à sa grande surprise, en fait, en injectant de la psilocybine qui est un composé actif qui se contient dans le champignon hallucinogène à ses patients, au lieu de voir leur cerveau s'allumer dans tous les sens, ils ont vu tout un ensemble qui s'appelle le default mode network, le réseau mode par défaut, qui est une structure globale du cerveau qui, d'une certaine manière, pour résumer à l'extrême, soutient notre personnalité, notre ego. Ce réseau-là s'éteint complètement, ou très partiellement, très fortement, je veux dire. Donc ils ont dit, mais c'est pas normal, parce que à grosse expérience dans le modèle de neurosciences matérialistes, théoriquement, grosse expérience de conscience, grosse activité cérébrale. On ne peut pas avoir une grosse expérience et puis une réduction d'activité. Or, c'est ce qu'ils ont observé. Donc, ils ont refait l'expérience avec d'autres patients. L'expérience a été répliquée dans d'autres laboratoires avec d'autres substances, le DMT ou le LSD, et on observe systématiquement la même chose. Et ça, c'est un pavé dans la mare de la science et de la vision matérialiste actuelle, parce que on ne devrait pas observer ça. On ne devrait pas observer quelque chose... Si tant est que quelque chose soit produit par le cerveau, on ne devrait pas observer une baisse d'activité. Donc ça veut dire que cette expérience d'extase, elle n'est peut-être pas directement liée à une activité cérébrale. Il y a une liaison, il y a toujours une causalité entre activité cérébrale et nos expériences de conscience, mais c'est peut-être pas la source, le cerveau. Le cerveau est peut-être à un autre rôle que celui d'être simplement la source de ces expériences. Et La comparaison avec les expériences de mort imminente, elle est intéressante parce que les expériences de mort imminente, c'est exactement ça qui se passe. C'est-à-dire que ces gens-là, dans des moments où leur cerveau est soit sérieusement détérioré, soit carrément en cessation d'activité, voilà des gens qui vivent des expériences d'une intensité folle, qui sont des expériences qu'ils décrivent comme beaucoup plus réelles que leur vie réelle quotidienne, à un moment où, voilà, où leur cerveau, ils sont en arrêt cardiaque, par exemple. Et un arrêt cardiaque conduit, entre les 10 et 20 secondes qui suivent, à une cessation de toute activité électrochimique dans le cerveau. Donc, le cerveau ne peut plus fonctionner pour percevoir, se souvenir ou agir, de quelque manière que ce soit. Donc, c'est assez fascinant, ça. C'est assez fascinant. Et effectivement, voilà, les EMI, les psychédéliques, l'extase, enfin, voilà un ensemble de thématiques qui sont vraiment fascinantes à explorer parce que dès qu'on rentre un petit peu dans l'étude, on découvre que tout le modèle vole en éclats, en fait.
Et oui, alors là, justement, quelles sont les croyances en vous qui ont pu évoluer? Est-ce qu'il y a eu vraiment un avant-après, notamment par rapport à la mort de votre frère? Vous avez été convaincu alors de la vie après la mort?
En fait, il y a une chose qui m'est apparue de façon assez importante et assez rapidement, c'est que on vit dans une société dans laquelle on attend de la science qu'elle nous donne une vérité absolue sur l'ensemble du réel et du monde. Sauf que les scientifiques sont les premiers à dire « Mais attendez les gars, c'est pas notre boulot, nous. Nous, on peut pas. La science n'est pas un espace qui peut vous fournir des certitudes sur la totalité de la réalité. La science, c'est une méthode de questionnement. Donc, on observe des phénomènes, on essaie de les interpréter, on soumet cette interprétation à l'expérimentation, et si ça match, a priori, l'interprétation est plutôt juste. Mais elle va être remaniée, elle va changer, elle va évoluer au fil du temps. Regardez... l'interprétation des pierres qui tombaient du ciel il y a 2 siècles, c'était de dire c'est des conneries, ça n'existe pas. Pardon, excusez-moi. Les pierres ne tombent pas du ciel, ça se saurait. Et puis on a envoyé un savant de l'époque qui s'appelait Lavoisier, qui est un des grands savants français, qui va récupérer ces pierres, qui les regarde et qui dit bah oui, elles sont faites de pierres, c'est manifestement un délire. Les paysans qui ont vu ça sont juste des crédules, quoi. Et puis voilà, quelques temps plus tard, on a découvert la réalité du phénomène des météorites. Et effectivement, il y a des pierres qui tombent du ciel. Il y en a des milliers chaque année, chaque jour même, petites, grosses, qui tombent du ciel. Ça s'appelle des météorites. Donc voilà, la science, avec les outils du moment, est capable de décrire une petite partie de la réalité et de proposer des interprétations qui peuvent être un peu proches de la réalité ou s'avérer complètement délirantes simplement quelques décennies plus tard, quoi. Donc, dans mon travail de questionnement par rapport à la conscience, c'est vrai que je suis parti un peu naïvement avec cette idée que j'allais faire une enquête et j'allais trouver des réponses fermes et définitives. Et en fait, assez rapidement, je me suis heurté à une sorte de plafond de verre. C'est-à-dire que la science a des outils qui sont extrêmement limités pour explorer cette question-là. Ne serait-ce que la nature de la conscience. On ne sait pas ce que c'est que la conscience. Les neuroscientifiques aujourd'hui ne savent pas ce que c'est que la conscience. On présuppose, pour certains, enfin jusqu'à présent, on présupposait de façon extrêmement majoritaire que la conscience est une conséquence du fonctionnement de notre cerveau. Mais aujourd'hui, vous avez même dans le champ des neurosciences, des neuroscientifiques éminents, extrêmement prudents et conventionnels, qui vous disent « bah non, on peut pas expliquer comment un phénomène aussi subtil, aussi immatériel puisse émerger du fonctionnement d'une espèce de masse de gélatine d'un kilo quatre, c'est tout simplement pas, ça matche pas, quoi. Donc, pour revenir à votre question, en fait, moi, je suis allé auprès de médecins, je suis allé auprès de scientifiques, de neuroscientifiques, j'ai couvert un champ assez large de domaines en m'intéressant aux expériences de mort imminente, mais aussi, comme vous l'avez souligné, à la médiumnité et à plein d'autres thématiques. Et en fait, assez rapidement, si je veux rester dans une approche purement scientifique, on peut pas trancher. On peut pas trancher. On arrive avec des hypothèses qui peuvent être très solides pour défendre l'idée que la conscience se poursuit, mais il y a une part d'inconnu qui demeure, et il y a une part d'inconnu qui empêche qui est aujourd'hui un des gros titres sur CNN, Paris Match, Le Monde, Le Figaro, La Vie après la mort, La Preuve, parce que voilà, la science n'est pas en mesure de fournir ça. Non pas que ça n'existe pas, mais parce que c'est pas l'outil adapté. Et ça, je m'en suis aperçu il y a plus de 10 ans, plus de 15 ans. Enfin, je m'en suis aperçu, c'est-à-dire que je suis arrivé à cette frustration de pas pouvoir répondre à ces questions-là. Et c'est le moment où, en fait, un de mes amis m'a parlé du chamanisme amazonien et notamment de l'ayahuasca, qui est une substance qui est utilisée dans tout le bassin amazonien pour induire des états modifiés de conscience. Et on m'avait parlé de ces substances comme étant la traduction du mot quechua, la liane des morts, qui permet d'entrer en contact avec le monde des esprits. Voilà. Mmh, et donc je me dis, je vais essayer ça tout de suite. Donc je suis parti en Amazonie. Je suis parti assister à un colloque en fait qui avait lieu à Iquitos au Pérou en juillet 2006, qui réunissait des chercheurs et des psychologues du monde entier. Et ça a été une plongée assez fascinante parce que toute la journée j'entendais des débats, des chercheurs parler du monde chamanique, de la réalité de ces esprits. Enfin, et puis les nuits, on faisait des cérémonies. Et là, j'ai découvert l'ayahuasca. J'ai découvert pour la première fois ces substances classées en psychédéliques et les possibilités d'expansion de conscience que ça provoque. Sauf que, voilà, c'est pas non plus une pilule magique où vous prenez, comme dans Matrix, la pilule bleue ou la pilule rouge et puis tout d'un coup le monde s'ouvre. Pour certaines personnes, c'est le cas, mais pour moi, ça n'a pas du tout été le cas comme ça. Ça a été une expérience douloureuse, compliquée, parce qu'en même temps que vous ouvrez les portes vers un autre monde, vous ouvrez aussi les portes vers votre monde intérieur, et les deux se mélangent, en fait.
Exactement.
Donc, vous allez à la fois le monde spirituel et le monde de votre inconscient, si je veux résumer de façon un peu grossière, qui se mélangent. Et quand vous n'avez pas d'expérience, comme c'était mon cas, il est extrêmement difficile de discerner ce qui vient de l'extérieur de ce qui vient des profondeurs de votre être. Et comme dans les profondeurs de mon être, il y avait quand même pas mal de choses pas jolies, j'ai eu des expériences difficiles, douloureuses, compliquées. Et en fait, d'une certaine manière, ça a amorcé un chemin thérapeutique que je poursuis encore aujourd'hui à travers le chamanisme. Mais ça m'a aussi ça m'a aussi permis quand même à certains moments de vivre des expériences d'une intensité qui ne laisse plus de place au doute. Je ne sais pas si vous avez déjà interviewé des gens qui ont vécu des expériences de mort imminente, mais quel que soit le récit qu'ils vous en font, quels que soient les troubles et les questionnements qui peuvent être les leurs, il y a cette espèce de certitude qu'ils savent qu'ils sont allés de l'autre côté de la mort. Ils veulent pas le prouver, ils veulent pas vous en convaincre, mais eux, ils le savent. Et il y a une espèce pas de sérénité pour tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu ces expériences-là qui sont quand même dans des grandes difficultés psychologiques à vivre l'après dans notre monde. Mais il y a ce petit truc qui a été posé au fond d'eux. Et moi, à travers les expériences chamaniques, d'une certaine manière, je m'en suis rendu compte aussi a posteriori, il y a quelque chose qui a été ouvert en moi, qui m'a donné cet accès à des expériences d'une telle intensité que j'ai aussi acquis de la connaissance dans cet espace-là. Vous voyez, notre société occidentale dit que la connaissance ne s'acquiert exclusivement qu'à l'école, dans une voie rationnelle et scientifique, mais plein de traditions et plein de peuples que vous connaissez aussi sans doute mieux que moi vous disent que cette connaissance, elle peut s'acquérir d'une façon beaucoup plus subtile, beaucoup moins rationnelle entre guillemets, et qu'elle est tout aussi valable. Je prends l'exemple des chamans amazoniens qui ont développé une médecine et une pharmacopée d'une très très grande efficacité sur pas mal de pathologies. Ils l'ont pas appris à l'école de médecine, ils l'ont appris quand on leur demande comment, en parlant avec la forêt. Donc les anthropologues au début, quand ils entendent ça, ils disent ouais, ils sont gentils, le petit indien débile. Mais quand ils prêtent un peu attention à ça, il est quand même curieux que ces discours un peu débiles et imaginaires où le chaman dit qu'il a appris en discutant avec plein de plantes, bah ça marche son truc quand même. Donc ça impose peut-être de se poser la question.
Ça guérit, voilà. Ça me parle beaucoup parce que j'ai également fait l'expérience de l'ayahuasca à deux reprises. Et ça, effectivement, comme vous, bon, la première fois était la découverte, la deuxième fois était beaucoup plus douloureuse parce qu'effectivement, ça va très loin dans les profondeurs de l'inconscient, je pense, et on se ressouvient de choses qu'on n'avait absolument pas envie de voir. Mmh. Donc ça peut même être traumatisant si on n'est pas préparé, je pense. Et justement, après ces expériences-là, bon, déjà, effectivement, j'ai vu. Enfin, j'ai eu la certitude d'être complètement connectée à un ensemble cosmique. Mais après, j'ai commencé à avoir je faisais déjà de la méditation depuis longtemps, depuis 4 ou 5 ans. Mais après l'ayahuasca, mes méditations étaient complètement différentes. C'est-à-dire qu'elles étaient déjà beaucoup plus profondes. Et elles ont changé. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'avoir des visions, des informations sur des choses futures, en fait, qui se sont avérés être vrais par la suite, où vraiment j'ai eu la sensation de recevoir des infos et donc de pouvoir les transmettre. Et donc le temps ne m'apparaissait plus comme étant linéaire, plus du tout. Et ça a été assez puissant. Donc effectivement, j'ai l'impression que quand même, ça ouvre des portes.
Ah, ça ouvre des portes, oui, ça ouvre des portes. Vous avez bien raison de souligner le fait que c'est quand même brutal et difficile et que ça demande d'être fait... Bah déjà, c'est interdit en Europe.
En Europe,
oui. Et ça demande d'être fait dans un cadre soit thérapeutique, soit chamanique,
oui.
qui propose un espace dans lequel justement les choses un peu dangereuses, tant psychologiques qu'énergétiques, peuvent être mieux maîtrisées. C'est pas du tout un truc récréatif, rigolo, bien sûr, mais
oula,
tous les psychédéliques, c'est le, du même
pas
ordre.
Pas du tout. Ouais, non, ça peut être très douloureux. Alors, je pense que, voilà, moi, je sais que j'avais fait beaucoup de thérapie avant, psychanalyse, de rêve éveillé, etc. Donc, j'avais déjà une entrée dans la matière, donc ça a été. Mais la deuxième fois m'a quand même, c'était difficile à vivre. Mais cela dit, les effets bénéfiques se sont ressentis après, en fait. Voilà.
Une fois que la porte est ouverte, effectivement, comme vous, ça a pu se greffer sur une pratique de la méditation qui vous avait déjà offert cet espace. Ça permet d'amplifier les bénéfices de la méditation et parce que vous faisiez de la méditation, vous n'auriez pas fait de méditation, peut-être vous n'en auriez pas tiré autant les bénéfices sur la durée par la suite.
Ouais, tout
la
à
méditation
fait.
Vous a fait une sorte de caisse de résonance de cette expérience d'ouverture que vous avez vécue pendant la cérémonie d'ayahuasca, qui a pu se reproduire par la suite parce que vous aviez déjà ce travail spirituel.
Et, c'est ça, une capacité aussi à être dans le moment présent de manière extrêmement intense. C'est-à-dire, les moments de joie étaient d'autant plus intenses et ils étaient de plus en plus simples. Ça, c'est quelque chose où j'ai vraiment vu un avant-après où un rien pouvait me rendre vraiment joyeuse après l'expérience, oui, effectivement. Alors, vous avez aussi réalisé donc, le documentaire que j'ai regardé tout récemment, Enlevé. Dans lequel vous montrez donc, John Edward Mack hein, qui rencontre les personnes qui ont vécu donc, un enlèvement par des extraterrestres, et vous-même allez aussi donc rencontrer certains de ces témoins. Alors moi, personnellement, j'ai toujours eu un peu de mal à envisager justement l'existence des extraterrestres, mais voyez, depuis que j'ai vu le documentaire, ça a fait bouger certaines de mes croyances. Donc je trouve ça vraiment extraordinaire, en fait, ce que relatent ces personnes. Alors, comment vous en êtes arrivé à vous intéresser à ce sujet, et justement, quelle prise de conscience vous avez pu avoir à ce moment-là?
Je profite d'ailleurs de ça pour dire qu'effectivement le documentaire il est enfin disponible parce que beaucoup de gens me demandaient où est-ce qu'on pouvait le voir et il est disponible aujourd'hui sur la plateforme Inres TV. Donc j'invite vraiment les gens à le découvrir parce que c'est
oui,
pour moi c'est un des moments les plus marquants de mon métier de journaliste. C'est-à-dire que en fait pour refaire la chronologie des événements, je suis en Inde au printemps 2000 et je fais un film pour Arte sur le Karmapa, qui est ce jeune dignitaire tibétain qui s'est échappé du Tibet pendant le passage à l'an 2000. C'était le plus haut dignitaire du bouddhisme tibétain qui était encore présent sur le sol chinois, enfin sur le sol tibétain, et il s'est échappé. Et il est arrivé en Inde début janvier 2000. Et donc, moi, j'ai proposé de faire un sujet pour Arte Info sur lui. Je suis parti en Inde. Et alors qu'il était... Il avait 14 ans à l'époque. Alors qu'il était inaccessible aux journalistes et qu'il était retenu... loin de tout le monde dans un monastère de Dharamsala, parce qu'il créait vraiment une crise diplomatique entre l'Inde et la Chine. Moi, je suis resté très très longtemps, je suis resté un premier temps en février, puis je suis retourné après au printemps, et j'ai eu accès à lui, et pendant un entretien qui a été pour moi un des moments les plus surréalistes de ma vie, je lui posais des questions et il y répondait pas, ou il répondait n'importe quoi. Un peu comme si j'interviewais une rockstar bourrée ou complètement défoncée, sauf que là, j'avais pas en face de moi une rockstar bourrée ni défoncée, j'avais quelqu'un qui est théoriquement un maître spirituel, et donc qui, a priori, vous dit des choses pour vous, quoi. Et pendant cet entretien, il a commencé à me parler d'autres êtres vivants dans l'univers, et vraiment, j'avais envie de me lever, de lui en mettre une, tellement je trouvais incompréhensible qu'il commence à me parler d'un truc aussi délirant alors que je lui posais des questions très concrètes sur comment il s'était échappé du Tibet, etc., etc. Mais ces phrases étaient empreintes d'une sorte de force, de solennité. Il y avait une énergie dans la pièce où on était juste tous les deux avec un traducteur qui était pour moi vraiment surréaliste à ce moment-là. Et je suis tellement déstabilisé, parce qu'il arrête pas de me parler de ça. Il me dit, il y a d'autres êtres dans l'univers, ce serait intéressant de faire une enquête là-dessus, plutôt que de faire un livre sur moi. Vous savez, je raconte ça dans mon livre Extraterrestre l'enquête, qui est disponible au livre de poche. Je raconte cette rencontre, justement. Et il termine en disant, vous savez, on sait comment aller sur la Lune, mais on sait pas comment aller sur le Soleil. Ça serait intéressant que vous fassiez un livre sur comment aller sur le Soleil. Et là, je me dis, bon, allez, on arrête. Ma vie est foutue, c'est terminé. Donc j'arrête l'interview carrément. Je dis on va arrêter là. Et sauf qu'en fait, il y a une partie de moi qui est en colère parce que il est en train de se foutre de moi. Jamais on s'est foutu de moi comme ça dans une interview. Et il y a une autre partie de moi qui me dit mais c'était tellement incongru, tellement bizarre et tellement intense qu'il y a quelque chose d'important que je dois entendre. Et je savais pas quoi. L'extraterrestre pour moi c'était juste un mythe ou une fadaise. C'était avant la mort de mon frère. Et donc là, on est en avril 2000. L'été qui suit, je monte ma mission en Afghanistan. Je recrute mes frères et toute une équipe. On part à l'automne 2000. Et puis, un an plus tard, au printemps 2001, mon frère Thomas meurt, qui crée cet électrochoc dans ma vie. Et donc, dans le cadre de mon changement d'orientation professionnelle, je me suis rappelé de cette phrase du Karmapa qui me disait qu'il y avait d'autres êtres dans l'univers. Et je me suis dit, après tout, le sujet est intéressant. Depuis quelques années, à ce moment-là, on avait découvert beaucoup d'exoplanètes. Donc les astronomes du monde entier et les Suisses en premier avaient commencé à découvrir des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes qui orbitent autour d'autres soleils dans l'univers. On pensait leur existence théorique plutôt réelle, mais on n'en avait jamais détecté. Et en fait, on avait commencé à en détecter une première en 1995, et depuis, on en a détecté des centaines et des centaines. Donc aujourd'hui, en astrophysique, on part plutôt du principe que chaque étoile que l'on voit dans le ciel la nuit est sans doute entourée d'un système planétaire complet. Et donc, dans cette infinité de systèmes planétaires, il est tout à fait envisageable qu'il y en ait qui soient dans ce qu'on appelle en astrophysique une zone d'habitabilité, c'est-à-dire un orbite plus ou moins stable autour de leur étoile, ni trop éloignée pour être trop froide, ni trop proche pour être trop chaude, mais plus ou moins à proximité, pour avoir des conditions de stabilité qui permettent de développer la vie. Donc, je me dis, je vais faire proposer un documentaire là-dessus, sur l'astrophysique, sur les découvertes des exoplanètes, et je commence à enquêter là-dessus, mais vraiment avec de la science lourde. Et puis à côté, je me dis, en fait, l'histoire d'OVNI, là, est-ce que c'est lié à ça? Est-ce que c'est vraiment sérieux? Et je me dis, il faut que je sois exhaustif, donc dans mon enquête, je vais lire 2-3 trucs sur les ovnis, on va régler le problème parce que c'est très certainement des fadaises ou un mythe moderne, et puis je reviendrai à la science sérieuse. Et en fait, en commençant à travailler avec rigueur, mais une certaine ouverture d'esprit, j'ai été estomaqué de découvrir, parmi un espèce de fatras parfois extrêmement délirant, des gens du CNRS, du Centre national d'études spatiales, qui avaient fait des enquêtes, qui avaient fait des livres sur le sujet, et manifestement, il y a un certain nombre de cas d'OVNI qui ne peuvent pas être réduits à un délire, à une illusion, à un mythe ou quelque chose, mais qui sont des phénomènes matériels observés, dont on a détecté des traces au radar ou des témoins extrêmement crédibles l'ont observé. Et ça a été pour moi un électrochoc, parce que dans mon monde de journaliste, soit les choses sont délirantes et il n'y a pas de fait pour étayer ces choses-là parce qu'elles sont délirantes, soit il y a des faits et à ce moment-là elles ne sont pas délirantes et on enquête dessus. Et là, je découvre que tout d'un coup, il y a un champ entier de thématiques sur lesquelles il y a des faits, sur lesquelles il y a des observations, sur lesquelles il y a de la science, mais qu'on considère encore comme délirantes, tout simplement parce qu'elles heurtent trop brutalement notre vision du monde. Et ça m'a estomaqué. Et donc, j'ai proposé, c'était pour France 2 à l'époque que je faisais le documentaire, j'aurais proposé de réorienter le documentaire qui était uniquement sur l'astrophysique au début et de le faire virer un peu plus vers le question OVNI. Et dans le cadre de cette recherche, j'ai entendu parler des gens qui disaient avoir été enlevés par les extraterrestres. Donc, j'étais arrivé à un stade où je me disais, les ovnis, c'est un phénomène sérieux, il y a quand même des gens assez rigoureux qui travaillent dessus, mais alors les enlever, alors ça c'est vraiment n'importe quoi. Mais je faisais l'effort, je me souviens que je faisais l'effort de lire tout ce qui me tombait sous les yeux, en me disant, t'es assez grand pour faire le discernement toi-même, ne t'interdis pas aucune lecture. Et donc, je tombe sur un petit livre d'une journaliste qui avait été journaliste à Paris Match, qui s'appelait Marie-Thérèse Debrosse, qui fait un exposé sur ce phénomène des enlèvements extraterrestres. Et dans son livre, elle parle d'un psychiatre américain qui s'appelle John Mack, qui est pas n'importe quel psychiatre, c'est le fondateur du département de psychiatrie de l'université de Harvard, il a eu un prix Pulitzer, et elle explique un peu le travail qu'il a fait avec différentes personnes disant être enlevées. Et moi, à partir de la lecture de ce livre, je me dis, il faut que je livre le bouquin de ce John Mack, je le trouve, je le lis, je suis encore plus estomaqué, et je me dis, mais il faut que je le rencontre. Et donc, quelques mois plus tard, je pars aux États-Unis, dans le Maine, où il y a un colloque qui est organisé avec différents scientifiques, astrophysiciens, un astronaute, Edgar Mitchell, qui était un des hommes qui a marché sur la Lune, et John Mack. Et je fais sa connaissance à ce moment-là. Et là, c'était en septembre 2003. C'est vraiment un moment pour moi où ma vie change. Un des nombreux moments où ma vie a changé. Parce que tout d'un coup, j'ai en face de moi quelqu'un d'une rigueur scientifique, pour moi, incontestable, qui ne me dit pas que les ovnis sont là et que les gens sont enlevés par l'extraterrestre, mais qui me dit que les gens qui racontent ça ne sont pas fous. On peut pas se débarrasser de leur témoignage comme ça. C'est inexpliqué, mais ils parlent de ça. Ils ont été affectés par ces expériences-là comme des gens ont été affectés par un événement réel. Et grâce à John, chez qui je vais habiter pendant une semaine à Cambridge, dans le Massachusetts, je vais aussi rencontrer des enlevés et faire des interviews et entrer dans un sujet où je n'ai plus la possibilité de me dire ouais, c'est des bêtises, ils doivent se tromper. J'ai en face de moi des gens, voilà, comme vous et moi, qui me partagent quelque chose qui a été pour eux extrêmement traumatisant. Et donc ce sujet m'a, c'est à la fois le sujet et à la fois la posture de John Mack qui m'ont impressionné. Le sujet, il est fascinant en lui-même, mais voilà, il conserve des zones d'ombre et des zones de doute qui sont colossales. En revanche, la position de John Mack m'a semblé être une position extraordinairement utile face à ces phénomènes extraordinaires. Parce que face à tous ces phénomènes, qu'il s'agisse de EMI, de contact avec des défunts, d'extraterrestres, tout ce que vous voulez, vous avez la posture un peu occidentale qui est de dire « j'y crois » ou « je n'y crois pas ». Je n'y crois pas parce que la science me dit que c'est, tout ça, ce sont des fadaises, ou alors j'y crois parce que j'ai envie d'y croire. Mais ces deux postures sont arbitraires d'une certaine manière. Ce sont des croyances, en fait. La croyance dans une non-existence ou la croyance dans l'existence. Et John Mack, en fait, comme le font, et je vais le découvrir plus tard, une grande communauté de professionnels de santé mentale, permettent de créer un espace d'accueil et d'écoute, où on n'est pas dans le jugement et où on est dans l'écoute du témoignage. Et en faisant ce travail d'écoute clinique, on est capable d'identifier un certain nombre de sources qui pourraient expliquer ces choses si elles sont délirantes. Quand vous discutez avec quelqu'un qui vous dit « j'entends des voix dans ma tête », si vous passez une heure d'entretien avec lui, vous allez vous apercevoir au bout d'un certain moment que cette personne montre des traits psychotiques ou schizophrènes, et vous allez pouvoir identifier, au-delà du récit qu'il vous fait, tout un terrain pathologique. Et ou au contraire, ne pas l'identifier. Et vous apercevoir que cette personne entend des voix dans sa tête, mais ne montre aucune caractéristique qui pourrait cliniquement expliquer ces voix dans sa tête. Auquel cas, il faut se comporter avec elle de façon vraiment, vraiment différente. Et John m'a vraiment appris et montré la puissance de cette posture d'accueil et d'écoute inconditionnelle qui, en tant que journaliste, pour moi, me semblait et me semble toujours être une position extrêmement rationnelle, mais qui permet d'avoir beaucoup plus d'accès à de l'information. Parce que quand vous faites ça, quand vous recevez, comme l'a fait John Mack, un enlevé, un deuxième, un troisième, un quatrième, vous pouvez vous apercevoir qu'au bout d'un certain temps, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre d'un phénomène qui apparaît derrière. C'est pas juste parce qu'il a pu l'écarter par son expérience clinique, il a pu écarter toutes les pathologies, toutes les raisons conventionnelles, il s'aperçoit qu'il y a un phénomène qui émerge qui peut être d'une importance colossale. Et c'est ce qui m'a ensuite... J'ai fait le portrait de John Mack... parce qu'il a été tué dans un accident de voiture un an après notre rencontre, à l'automne 2004. Donc j'ai fait un film sur lui, sur son travail, qui s'appelle donc Enlevé. Et ensuite, quelques années plus tard, c'est ce qui m'a vraiment directement inspiré quand j'ai voulu créer l'INRES, qui était pour moi un espace justement où on allait faire de la recherche et de l'investigation autour de questions extraordinaires, mais sans être dans cette posture de devoir se prononcer sur la réalité ou l'irréalité des phénomènes, mais juste être dans une posture d'écoute. Écoutons les gens qui ont des histoires bizarres à nous raconter. On ne se met pas en danger, on ne les met pas en danger eux-mêmes en les écoutant, et au contraire, c'est comme ça qu'on peut vraiment faire avancer la science.
Oui, c'est ça, c'est que finalement, on retourne un peu au début de l'interview, c'est-à-dire que ce n'est pas une question de croire ou de ne pas croire, c'est une question d'écouter et de tenter de comprendre s'il y a quelque chose à comprendre.
Exactement. Bah, croire, c'est comme son nom l'indique, c'est une adhésion arbitraire. On croit en quelque chose parce que soit on est intimement appelé quand il s'agit de croire en une tradition religieuse ou une autre. Voilà, on a une relation intime. On est au-delà de la raison, on est au-delà de la science. On est dans quelque chose de plus fort, de plus puissant. Quand quelqu'un décide de s'engager dans un chemin spirituel, que ça soit le catholicisme, l'islam, le bouddhisme ou autre, c'est parce qu'il peut y avoir des raisons familiales et culturelles, mais il peut aussi y avoir pour beaucoup une vraie authenticité, un vrai appel. Mais on est dans la croyance, on est dans quelque chose qui est intime. Ça ne veut pas dire que c'est faux, ça veut dire que ça échappe au réductionnisme scientifique. Et je pense que par rapport à ces phénomènes extraordinaires, voilà, il y a aussi tout un espace qui nous permet d'avancer, d'écouter, d'explorer, d'entendre. Et par cela de faire une autre forme de science qui est une forme de science sur l'expérience directe, une science humaine qui est tout autant authentique et qui est tout autant pertinente dès lors qu'il s'agit d'explorer un peu notre réalité.
Bien sûr, en fait ça va au-delà de la croyance. Pour moi, c'est, on va plutôt parler finalement de résonance au-delà de la croyance.
Ben oui, mais c'est aussi, pour moi, l'aspect science humaine est vraiment important et il est légitime. C'est-à-dire que c'est, si vous voulez, si vous avez votre voisin qui débarque et qui vous dit, oh là, j'ai vu un ovni, et puis d'ailleurs, il m'a enlevé cette nuit, waouh! Éventuellement, si vous connaissez bien votre voisin, vous savez qu'il est vraiment sain d'esprit, vous pouvez être interloqué, dérangé, et puis, bon, vous n'allez pas trop savoir qu'en faire au bout d'un moment, quoi. Éventuellement, vous aurez moins dîné chez lui après, je sais pas. Mais en revanche, si vous êtes dans un travail d'écoute avec un cadre, soit acquis dans en psychiatrie ou un autre domaine, qui vous permet vraiment d'écouter avec beaucoup plus de profondeur, de déceler éventuellement des biais cognitifs, comportementaux, émotionnels qui pourraient avoir créé d'une certaine manière l'illusion de cette expérience-là, et que vous pouvez justement écarter ces biais-là et vous apercevoir de la profonde sincérité du témoin, et puis que après ce voisin, vous allez en entendre un autre, et puis un troisième, et puis un quatrième, et que vous allez recueillir peut-être une centaine de témoignages. Là, vous allez commencer à pouvoir vous apercevoir des points communs qu'il y a entre les témoignages, des points communs qui parfois sont des grands archétypes, et qui parfois vont être sur des petits détails qui seraient vraiment très très curieux de trouver de façon similaire chez plein plein de gens différents. Regardez les rêves, par exemple. Je fais une petite parenthèse. Dans les rêves, plus de 80% des éléments de nos rêves vont être particuliers à nos rêves à nous. Si vous prenez 100 personnes et vous leur demandez de raconter leurs rêves, vous allez avoir 80% de différence entre les différents rêves. Si vous demandez à 100 personnes à qui vous avez donné de l'ayahuasca de décrire leur vision, il y a plus que 20% qui vont être différents. Vous allez avoir 80% de similitudes entre les expériences. Ça veut dire qu'on est dans quelque chose de totalement différent du monde onirique, du monde de la création imaginaire. On est peut-être dans une perception plus authentique d'une autre nature. Bah, de la même manière, John Mack, voilà, en interrogeant des centaines de témoins, s'est aperçu qu'il y avait quand même des points communs et qu'il y avait quelque chose qui parlait d'un phénomène réel, qui parlait d'un phénomène qui est en train de se produire, qui concerne et qui touche des gens. Donc, ça ne prouve pas, entre guillemets, que les extraterrestres sont là, qu'ils enlèvent des gens, mais ça prouve qu'il y a un phénomène réel qui contacte et qui concerne un certain nombre de personnes et que on peut l'étudier, on peut aller encore plus loin dans l'exploration de ce sujet-là. C'est pas parce qu'on peut pas attraper une soucoupe volante et la mesurer dans un laboratoire d'astrophysique qu'on ne peut pas faire de science sur ces phénomènes-là. Et voilà, l'exemple de John me l'a vraiment montré. Et d'ailleurs, ma première question, c'était, j'étais encore très naïf à l'époque, ma première question, c'est est-ce que vous croyez aux ovnis? Et il m'a répondu tout de suite d'emblée en me mouchant, en me disant, mais il n'est pas question de croire ou de ne pas croire aux ovnis. Il est question de savoir si on peut les étudier ou pas. Et oui, on peut les étudier et on peut sortir un certain nombre d'éléments indiscutables de l'étude de ces phénomènes.
Super. Bon, on approche vers la fin du podcast. Alors, j'aime bien poser cette question en fin de podcast que je vais un peu modifier pour vous personnellement. Pensez-vous que l'âme est illimitée?
Oui, elle est uniquement limitée par notre corps et notre incarnation. Mais à l'intérieur de nous, effectivement, existe quelque chose que j'appelle l'âme, effectivement, pour plus de convenance, mais pour moi, c'est pas lié à une vision religieuse du phénomène. Mais il y a quelque chose en nous qui échappe au temps, qui échappe à l'espace, quelque chose dont j'ai pu faire l'expérience dans certaines cérémonies chamaniques où j'ai quitté ce monde, j'ai quitté cette réalité, j'ai quitté cette ligne temporelle, j'ai fait l'expérience directe de ces autres dimensions. Et oui, elle est absolument illimitée. Les limites auxquelles nous sommes confrontés, nous, le temps, l'espace, voilà, on parle en ce moment, on arrive aux limites temporelles de notre entretien. Vous êtes à un endroit, je suis à un autre endroit, on ne peut pas être au même endroit en même temps ou choisir d'être dans plein d'endroits différents en même temps. Ça, c'est uniquement lié aux limitations de la matérialité et de ce monde et de cet espace-temps dans lequel nous sommes coincés. Alors, nous y sommes coincés, mais c'est aussi un beau monde, c'est un monde magnifique dont on peut faire l'expérience, de la nature, de l'environnement, de la vie communautaire. Les liens qui sont possibles sur cette planète sont absolument formidables et colossaux. Mais voilà, c'est une expérience dans un endroit bloqué, coincé. Et ce dont on fait l'expérience, votre corps, vous d'Anaïs, moi mon corps de Stéphane, on est un petit reflet en fait de cette âme, un petit reflet coincé dans cette dimension du temps et de l'espace. Et notre âme, elle n'est pas du tout assujettie à ça. Mais le problème, c'est que notre corps, notre psyché, notre personnalité, notre corps à la fois physique et psychique est tellement dense qu'il inhibe totalement toute manifestation de cette âme, sauf peut-être parfois dans des petits moments de rêve ou dans des petits moments de méditation ou avec une grosse dose d'ayahuasca ou d'autres types de psychédéliques, on peut rompre un petit peu ça. Ou dans des moments d'accident, tout ce qui vient effracter un peu notre forteresse, tout ce qui vient bousculer notre vie, soit de façon involontaire, de par des accidents, des drames, soit de façon volontaire et induite en développant une pratique spirituelle qui permette justement de dissoudre un petit peu ces frontières, on peut y avoir accès. On peut y avoir accès et on peut se nourrir et se laisser inspirer par cette âme, parce que cette âme, en fait, elle sait très bien où elle va, elle sait très bien ce qu'elle fait.
Super. Stéphane, Alix, merci beaucoup. Merci infiniment.
C'est moi qui vous remercie de cet accueil. C'était un grand plaisir de discuter avec vous.
Grand plaisir partagé. Après avoir écouté cet épisode, peut-être que comme moi, vous remettez certaines choses en question. N'hésitez pas à laisser des commentaires à ce sujet sur les réseaux ou directement sur votre plateforme d'écoute. Les Destins Flottants pour aujourd'hui, c'est fini. Abonnez-vous afin de retrouver le prochain épisode. À bientôt !